Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
10% des mots de la première édition du Larousse n'existent plus aujourd'hui dans le dictionnaire. Quels sont ces mots? Que signifie leur disparition? Bernard Lehu nous dit tout dans un petit instant. La comédie musicale Singing in the Rain s'installe dès ce soir sous la coupole du Grand Palais à Paris. Pour la première fois depuis 1900, cet espace de 17 000 mètres carrés est transformé en salle de spectacle. À suivre le reportage en coulisses de Steven Bellery. Bien le coton de nos vêtements, c'est l'enquête du magazine Cash Investigation diffusée ce soir sur France 2. Isabelle Morelli-Bosque nous en proposera des extraits en avant-première. Et puis nous écouterons le piano du musicien français Philippe Cassard. Il interprète Forêt et Mendelssohn dans deux nouveaux albums qui viennent de paraître. Charlotte Latour l'a rencontré.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous nous invitez à feuilleter ce matin les mots disparus de Pierre Larousse. C'est un ouvrage savoureux qui ressuscite les mots figurant dans la première édition du célèbre dictionnaire en 1856 et qui, victimes du passage du temps et de l'évolution de la langue, n'y sont plus aujourd'hui.
Et alors, première surprise, quand les linguistes de chez Larousse ont comparé les deux éditions à plus d'un siècle et demi de distance, ils ont constaté que seuls 10% de ces mots avaient disparu. Oui. C'est assez peu, finalement.
Ça m'a surpris.
Et ça montre à quel point les choix de Pierre Larousse étaient pertinents et déjà ancrés dans la modernité.
Dans ces 10% de mots disparus, Bernard, quelles sont les principales victimes?
Alors, bien sûr, tout le vocabulaire lié à la France rurale et artisanale du 19e siècle. Un premier exemple cité par le linguiste et conseiller scientifique de Larousse, Bernard Cerchellini.
Il y en a un que j'aime beaucoup parce qu'il est hermétique, parce qu'il a disparu, c'est l'outeron. L'outeron, oui. C'était l'ouvrier engagé à la journée pour faire les moissons. Et c'est intéressant parce que c'est toute une époque.
Déclinaison
c'est
du mois d'août.
C'est le mois d'août. Ouais. C'est le mois d'août, c'est les fenaisons, les moissons. On a pratiquement là dans les yeux un tableau. Un tableau de la France qui utilisait des outrons. C'est très beau. Hein. Et le mot a totalement disparu avec la chose.
L'outron, comme le mois d'août, donc à l'apostrophe, A-O-U, le petit chapeau sur le U, T-E-R-O-N. Alors il y en a beaucoup d'autres. Le chaud-fournier, c'était l'artisan qui cuisait la chaux. Le fouille-au-pot, ça c'est un petit marmiton. Disparu également les outils, les pratiques de l'époque. Le panage, droit payé au propriétaire d'une forêt pour y nourrir des cochons. Ah. Ou le verbe hollandais.
Ah bon?
Alors, rien à voir avec le prédécesseur d'Emmanuel Macron. Il s'agissait de passer des plumes dans la cendre chaude pour les dégraisser. Et savez-vous ce que désignait la cuisse madame et la mouille-bouche?
Pas du tout.
Eh bien, les mouillettes?
Non, vous n'êtes pas loin. C'est un rapport avec l'alimentation. C'était des variétés de poires aujourd'hui. Ah. Elles aussi disparues. La mouille-bouche, on dit bien une poire pour la soif. Oui. Vous voyez, tout ça est très logique.
Ah, une poire pour la soif. Alors, en feuilletant le livre, je tombe sur le pet en l'air qui signifiait une robe de chambre fort courte. On adore.
Oui, ça, j'étais sûr que vous alliez le relever, celui-là, Yves. On trouve, c'est vrai, que tout un vocabulaire très imagé. Un claque-dent, c'est un misérable. Un galantin, c'est un homme ridiculement amoureux. Et la branloire n'a rien à voir avec éjaculatoire. La première est une sorte de balançoire. Le second, l'adjectif, se dit d'une prière courte et fervente. Alors, plus sérieusement, je suis frappé par l'abondance des verbes formés à partir de mots du quotidien qu'on n'utilise plus, qui pourraient pourtant être fort utiles.
Ah oui.
Quittancer, c'est donner quittance. Mm-hmm. Incidenter, provoquer des incidents. Victimer, faire de quelqu'un une victime. Chopiner, boire un coup, etc., etc.
On a là une langue extrêmement dynamique, très régulière, que je ne rencontre plus guère que dans la francophonie. Pensez aux Français d'Afrique, ou qui utilisent régulièrement siester, gréver, amourer, enceinter. Notre langue a une conjugaison magnifique, c'est la première qui permet de former énormément de verbes. Et Larousse le savait, et il fait confiance à cette langue. Je trouve que notre idiome contemporain est un peu académique, un peu puriste. Finalement, la langue de Larousse, on la retrouve plutôt au Québec, en Belgique, en Afrique, où on crée des locutions et des mots. Il y a là un dynamisme de la langue dont nous avons besoin, car il faut rappeler que le français est une langue qui a besoin de créer des mots, qui a besoin de dire le monde, alors que nous sommes un peu frileux, me semble-t-il.
Alors aujourd'hui, est-ce que des mots disparaissent encore du Larousse?
Oui, c'est vrai que chaque année, on parle des mots nouveaux, des mots entrants. Et les mots sortants? Eh bien, tous les 10 ans, Larousse procède à une refonte générale du dictionnaire et supprime des vocables, mais avec parcimonie, comme le précise Bernard Cerchellini.
Et avec beaucoup de chagrin et surtout beaucoup de prudence. Car un mot ne meurt pas vraiment. Il reste dans la littérature, dans le patrimoine. Il est virtuel, Si je vous dis badauder, vous allez tout de suite le comprendre, même si vous ne l'utilisez pas. Donc il est encore vivant. Donc c'est avec beaucoup de soin que tous les 10 ans, nous éliminons, faute de place, quelques mots qui ne sont plus utilisés. Il y a 10 ans, nous avons éliminé le verbe minitelé, mais nous avons gardé minitel.
Minitel.
Qui peut encore être trouvé dans un texte.
Alors, ben voilà, ce sont donc les mots disparus de Pierre Larousse. Toute la saveur des mots du 19e siècle, aujourd'hui oubliés. Ça, c'était le titre et le sous-titre. C'est aux éditions Larousse et l'entretien de Bernard Cerchilini est à écouter sur RTL.fr. C'est passionnant.
La couverture est à l'image du livre d'un autre siècle. C'est absolument charmant. Hein.
Avec Monsieur Pierre Larousse.
Avec Monsieur Pierre Larousse, s'il vous plaît. Dans quelques instants, Thinking in the Rain.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning
to you.
Et un reportage maintenant dans Laissez-vous tenter. Pour la première fois depuis son inauguration en 1900, le Grand Palais à Paris va accueillir un spectacle vivant. En l'occurrence, la comédie musicale Singing in the Rain, qui démarre ce soir pour 45 représentations. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez assisté à la transformation du Grand Palais.
Oui, une métamorphose en 6 jours seulement, sous l'égide des équipes techniques du Théâtre du Châtelet. L'institution parisienne a en effet fermé ses portes en mars dernier pour 2 ans et demi de travaux. Le Châtelet a donc eu l'idée de délocaliser un de ses spectacles sous la plus grande verrière d'Europe. Thomas Loret est le responsable du bureau d'études du théâtre. Il planche depuis plus d'un an sur ce projet hors norme.
On aurait eu du mal à faire rentrer le théâtre du Châtelet dans un autre endroit que le Grand Palais parce qu'on a une cage de scène qui est assez haute au Châtelet. Et pour pouvoir rentrer cette scène, il nous fallait 25 mètres de hauteur. C'est-à-dire que la scène qu'on a montée au Grand Palais fait 25 mètres de hauteur. Et ça tient bien, mais relativement juste dans la nef du Grand Palais. Donc ça marche bien. On ne recrée pas qu'un cadre de scène, on recrée aussi toute la machinerie scénique. Quand on est au Châtelet, on a 60 porteuses électriques, tout est sur place. Sauf que là, au Grand Palais, on arrive dans un lieu qui est vide et il faut recréer tous ces mécanismes de scène. Dans un théâtre, l'idée, c'est de réaliser l'impossible. Donc, on va dire qu'il n'y avait rien d'insurmontable, que c'était un gros défi technique, mais qu'il n'y avait rien d'insurmontable.
Mais ça veut dire que le théâtre a été reproduit à l'identique, Steven ?
Presque. C'était l'idée, proposer l'expérience Châtelet au Grand Palais. La scène fera la même taille, le spectacle sera le même qu'en 2015 au Châtelet, avec 40 artistes et plus de 20 musiciens. Il a donc fallu recréer une fosse pour l'orchestre qui doit être sous la scène pour des raisons de son. Charlotte Latour ne me contredira pas.
Tout à fait, surtout dans un endroit comme ça. Ouais.
Jacques Hérault est le directeur technique du Théâtre du Châtelet. Casque de chantier sur la tête, il fait les comptes pour nous.
On est à 100 tonnes d'échafaudage. Un élément de décor fait en moyenne 1 tonne. On en a à peu près une petite dizaine. Le système d'eau de récupération avec nos 4000 litres d'eau qui sont chauffés et qui sont filtrés en permanence comme dans un système de piscine pour que les artistes, quand ils prennent l'eau à une bonne température qui n'attrape pas froid. Voilà, on a monté un gradin de 2500 places qui représente aussi plusieurs tonnes. Et puis on doit être rendu à environ à une soixantaine de semi-remorques d'éléments qui sont rentrés. Puisque la grosse difficulté, c'est que nous avons un temps très très court pour monter ce fabuleux spectacle. Nous avons des vacations 24 heures sur 24. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a une certaine fierté à monter ce projet dans ce lieu extraordinaire.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
Captation de ce week-end
stupéfiant.
Au Grand Palais pour une des premières répétitions générales. C'est le titre phare évidemment du musical qui nous replonge dans le Hollywood de 1927 quand la capitale du cinéma vivait une révolution, le passage du muet au parlant.
Il n'y a aucune résonance, le son est parfait, alors on l'entend, ça rend vraiment bien. Comment le Châtelet a-t-il réussi à restituer l'acoustique d'un théâtre au Grand Palais, Steven ?
Ça a été le principal défi de Stéphane Oskerizian, chef du département son au Théâtre du Châtelet. Avec ses équipes, il s'est arraché les cheveux pendant de longs mois. Imaginez, sous la coupole du Grand Palais, un gros vide de 17 000 mètres carrés.
C'est une acoustique très très particulière avec un taux de réverbération, c'est-à-dire une persistance du son qui est hors norme, à vide de 12 secondes. C'est-à-dire que si vous émettez un son, une pulsation, ce son met 12 secondes à mourir. Donc évidemment, lorsque l'on parle d'un spectacle où il y a quand même de la rythmique, de la batterie, des claquettes, du dialogue sur orchestre, il faut une certaine compréhension de tout cela.
The roses, the roses, the roses, the roses, the roses, the roses.
Alors évidemment, il y a deux leviers au son sur lesquels on peut jouer. C'est une part le choix des haut-parleurs, qui est crucial, non seulement le choix, mais leur positionnement. Et le contrôle absolu de la directivité, c'est-à-dire que l'on va essayer de donner du son pour les spectateurs et pas ailleurs. Le deuxième paramètre sur lequel on joue, évidemment, ce sont les traitements acoustiques. Des panneaux acoustiques qui peuvent être tendus et du coup mater un petit peu, calmer l'excitation naturelle du son dans le lieu.
Rendez-vous dès ce soir au Grand Palais à Paris pour découvrir le résultat. Il y a même de la moquette rouge partout. Le résultat est vraiment assez impressionnant, visuellement parlant. Cette production de Sing in the Rain est une merveille, l'une des meilleures productions du Châtelet. Sachez que le Grand Palais ouvrira chaque soir 2 heures avant la représentation, ce qui vous laissera le temps de prendre un cours de claquettes dans les coursives du Grand Palais ou d'aller faire un karaoké ou d'admirer la création vidéo Dislocated sur les grandes comédies musicales.
Il y a même un restaurant qui est pas mal du tout.
J'adore.
Merci beaucoup,
oui.
Steve. Ben oui, hein, oui. Voyez, vous êtes d'accord. Merci, Steven Bellary. Eh bien voilà, vous venez d'entendre sa voix. Nous allons parler télévision, les audiences avec vous, Isabelle Morini-Bosque, et avec Médiamétrie.
Eh bien, La Vengeance sous Euclair augmente son audience hier. 5 100 000 téléspectateurs et 20% du public sur la 1, contre 3 millions pour la fin de 13 sur la 2. Marié au premier regard augmente également sur M6, 2 700 000 téléspectateurs. Et alors, côté TNT, c'est W9 qui fait la maille, hein, comme on dit en langage de pêche. Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, 2 200 000 téléspectateurs. Et Valérie Damido en rassemble près de 2 700 000 pour ses décorations de Noël. Moi, j'aime bien, moi.
On passe à notre soirée télévisée de ce soir, mardi. D'abord, vous signalez sur la 3 le polar La Forêt, succès d'audience ce mardi dernier. Et enfin, sur TF1, Une famille formidable.
Oui, à propos d'Une famille formidable, on signale la sortie chez Michel Lafon d'un livre qui ne l'est pas moins et qui raconte les 25 ans d'existence du clan Beaumont, un beau livre pour les Beaumont, ça s'imposait.
Votre temps fort, c'est Cache Investigation, l'émission qui fait trembler le monde des affaires. Ouh, il tremble.
À 21h sur France 2, et ça ne va pas changer ce soir avec une excellente enquête sur le coton, cette matière si douce, ce trafic si dur, conduisant la journaliste Sandrine Rigaud jusqu'en Ouzbékistan, l'un des principaux exportateurs mondiaux qui fait travailler 1 million de personnes par la violence et la contrainte. Certains reprochent à Cache ses mises en scène de l'info. Ils ne vont pas changer d'avis au début. Écoutez la première minute.
Précédemment, dans Cache Investigation.
Bonjour messieurs, dames, Élise Lucet, Cache Investigation.
Du suspense.
C'est une interview, vous voulez pas répondre à mon interview? Mais pourquoi vous voulez pas répondre?
Des courses-poursuites.
Manu, de l'autre côté, dehors.
Et changement de ton, 2 minutes plus tard. Pourquoi tant de violence? Suivent alors des images de beaux nuages blancs sur fond bleu, de bébés blonds, de linge qui sèche au soleil, à de la douceur dans un monde de brutes.
Je ne sais pas vous, mais nous, après plusieurs années comme ça, on a vraiment besoin de souffler. On rêve de douceur, d'innocence, de pureté. Et si on faisait un film, sur le coton, du blanc, du moelleux, des enfants potelés, du linge qui sèche dans la douceur d'un été. Ça nous ferait tellement de bien. Bon, ok, vous n'y avez pas cru et vous avez raison. Le coton, c'est d'abord un business féroce. 37 milliards d'euros chaque année.
Le cling qu'on entend, c'était Élise Lucet qui cligne de l'œil. Et c'est parti pour une enquête remarquable ayant demandé 1 an de travail, dangereux pour l'équipe et ses contacts, comme Elena, tabassée pour avoir filmé la population ouzbek, réquisitionnée, médecin comme enfant, pour ramasser quasi gratuitement des tonnes de coton dans les champs. Il y a aussi des moments surréalistes quand un industriel ouzbek rencontre l'équipe. Il croit avoir affaire à des clients, alors il se lâche, écoutez.
Il faut toujours faire attention. Connaissez Lise, ça s'appelle une journaliste qui travaille sur France 2 ou sur France 3. Lise, qui fait tous les grands reportages, très pertinente, une blonde avec cheveux très courts.
Ah, Élise Lucet.
Élise Lucet. Alors on a énervé plus d'un. Hein. Si c'est pas chercher les ennuis, ça, c'est quoi? Aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de marquer l'origine de quoi.
D'accord.
Si vous voulez quand même vous mettre Made in Allemagne, on va vous mettre Made in.
Voilà, à la demande des grandes marques, c'est marquant. Il met des provenances bidons, mieux vu qu'évidemment Ouzbékistan. Alors, Élise Lucet, patronne des magazines de France 2, ne souhaitait pas parler hier, veille de la rencontre aujourd'hui à 15h entre la SDJ et la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui doit faire 47 millions d'économies en 2018, presque 6 dans le secteur de l'information. Mais le discours d'Élise, accusée de se mettre trop en avant et de façon régulière, est le même aujourd'hui qu'hier quand elle me disait ceci.
Quand on est journaliste, être enfermé encore une fois dans un studio, pour moi, c'est une image totalement contre-productive. Et puis, c'est pas ma nature du tout. Je suis pas une femme d'intérieur.
Et quand
quand on dit que vous êtes la madame propre, la Erin Brockovich du PAF, mais que vous avez une équipe derrière, ce qui aide à être courageux, vous répondez quoi?
D'abord, je suis pas Erin Brockovich parce que Erin Brockovich, c'était une lanceuse d'alerte. Elle n'était pas journaliste. Je salue d'ailleurs le courage des lanceurs d'alerte. Je fais mon boulot de journaliste, j'essaie de le faire bien. Je pourrais jamais le faire sans mes équipes de cash ou d'envoyé spécial. Moi, j'adore le côté équipe. Il y a que comme ça qu'on produit de très très belles enquêtes. Et après, monsieur propre ou madame propre, moi, je déteste les étiquettes. J'essaie juste de faire le job correctement. Et j'ai la chance de pouvoir le faire dans un groupe qui s'appelle France Télévisions, où on nous laisse faire de l'enquête, du reportage, de l'investigation. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où ça peut se passer. Donc merci Delphine Ernot.
Alors ça, c'était avant, juste avant peut-être la rencontre au sommet d'aujourd'hui. Outre-Cache, produit par Première Ligne Production, LGR Complément d'enquête et envoyé spécial, dont la périodicité ou la durée sont en cause, avec également en projet le fait de confier la majorité des reportages à des sociétés extérieures. Or, Élise Luchet est très attachée à cette notion de rédaction forte. 17 CDD devraient disparaître. La suite aujourd'hui à 15h.
Alors on signale à 22h55 et toujours sur la 2, Infrarouge, un numéro à part.
Oui, parce que c'est le dernier tourné par Mireille Darc avant sa disparition et qu'il concerne l'excision, cette opération barbare qui consiste à couper ce petit morceau de peau qui est considéré comme le centre du plaisir féminin.
Ce petit bout de femme est parfois considéré comme une excroissance à couper. 200 millions de femmes dans le monde ont subi une ablation du clitoris, une excision. Près de 60 000 d'entre elles vivent en France. Toutes les 4 minutes, une petite fille est excisée dans le monde.
Voilà, c'est donc à 22h55 sur la 3, sur la 2, c'est toujours Mireille Darc qui faisait la voix off elle-même.
Petite info télémusique, c'est aujourd'hui qu'on peut acheter les places des Enfoirés à partir de 10h sur Internet, depuis 9h dans les points de vente près de Strasbourg. Les Enfoirés, c'est du 16 au 21 janvier.
Ça a ouvert il y a donc 19 minutes et nous y serons, je peux vous le dire. Dans un instant, Fauré, Mendelssohn, Charlotte Latour et Philippe Cassard.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Et du piano maintenant. Voyage dans le temps, direction les 18e et 19e siècles, avec Fauré et Mendelssohn, sous les doigts d'un pianiste à l'actualité bien chargé, Philippe Cassard. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Le pianiste français vous a reçu chez lui.
Pour une belle discussion sur deux compositeurs qui l'inspirent depuis toujours, une fois écartés Thelma et Louise, ces deux chats qui voulaient absolument jouer avec les câbles des micros, Philippe Cassard a revêtu son formidable costume de conteur pour évoquer tout d'abord Gabriel Fauré, dont il joue sur son nouvel album plusieurs œuvres pour piano et orchestre.
Ça n'est jamais petit, cette musique. Au contraire, les phrases sont immenses, la respiration est immense. Et j'ai souvent coutume de dire, le son chez Fauré, c'est long en bouche, comme un bon vin.
Cette balade est trop rarement donnée. Il faut dire qu'elle est courte, hein, moins d'un quart d'heure. Elle ne nécessite pas un gros effectif à l'orchestre, 35 musiciens. Elle est donc moins impressionnante qu'une symphonie de Beethoven. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est parfois un petit peu boudée. Elle est pourtant fraîche, spontanée et pleine de lyrisme.
Chez Fauré, il y a toujours l'élan. Et après l'élan, il y a un moment de repli sur soi où on a envie de rêver, mais pour soi. Un murmure, une confidence, ça j'aime chez Fauré. Ça, c'est une chose qu'on va retrouver toute sa vie. Une extraordinaire maîtrise des crescendo incroyables, des apothéoses éclatantes. Et puis, juste derrière, ce qu'on pourrait appeler des petites morts.
Une écriture raffinée, subtile, dans cette œuvre où Gabriel Fauré, lui-même pianiste, s'inspirait de Chopin et semble évoquer dans un long souffle les grands espaces.
Fauré a toujours été appelé par la mer, le vent, les grandes houles, un soleil qui illumine ou au contraire qui est en train de se coucher et qui lâche ses derniers rayons sur la mer. Ça, c'est très très fauréen.
Et Philippe Cassard, grand amoureux de la musique française, est allé chercher des musiciens avec qui il a souvent joué, à savoir l'Orchestre National de Lorraine et son chef messin d'origine, Jacques Mercier. Pour cet album tout en poésie, où le jeu au piano est en fait une grande caresse du clavier, très bel opus que cet album forêt de Philippe Cassard chez la Dolce Volta.
Alors Philippe Cassard vient aussi de sortir Charlotte, un autre album, en solo cette fois, un album Mendelssohn.
Album consacré au compositeur allemand du 19e, mort jeune, hein, à 38 ans. Il a écrit tout au long de sa vie d'irrésistible petite pièce pour piano appelée Romance sans parole.
Il y a tout dans ces romans sans parole. Il y a l'amour, il y a la nostalgie, il y a le drame, il y a la légèreté, il y a l'éclat de rire, il y a les sourcils qui se froncent. Enfin, c'est très narratif, c'est très figuratif. C'est des petits bonbons comme ça. Mais ils peuvent être assis du lait, les bonbons ou poivrés, hein, c'est pas forcément que du sucre.
On est là au début du romantisme avant Forêt, album lumineux, bien que moins chatoyant que le précédent. Si ce ne sont pas des musiques spectaculaires, en tout cas, ce sont de celles qui touchent au cœur. Cet album Mendelssohn est paru chez Sony et Philippe Cassard sera en concert le 1er décembre à la salle Gaveau à Paris et le 6 décembre à Lyon.
Et c'est sur ces notes que nous allons accueillir Julien Courbet dans un instant.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les enfants, on a passé un moment merveilleux. On a même eu les compliments. Vous savez de qui? Monsieur Estou qui est venu nous voir, directeur. C'est pas tous les jours, hein. Donc on est content, on en profite. Voilà. Bon, allez, tout ça nous permet de passer la main à Julien Courbet. Bonjour Julien.
Je prends votre main avec plaisir. Et je veux même l'embrasser comme ça se faisait dans les...
Vous savez, ah oui.
Vous savez, les Corléonais, on lui embrassait la bague. Et j'ai remarqué ça dans les couloirs, les gens ne le savent peut-être pas, mais Yves Calvi, lorsqu'il passe, tend la main comme ça, et la comptable, l'informaticien, vient et le salue. Oh, monsieur Calvi, merci.
Tu as raison, Julien.
Et il donne sa protection comme ça aux gens d'RTL. Merci en tout cas, Yves, pour tout ce que vous faites pour cette radio.
Et bonne journée.
Bonne journée. Un jour, je te demanderai peut-être un service.
Un petit service, oui.
Merci. En tout cas, tu vois que sur les radios concurrentes, les services que tu m'as demandé, ça a marché. Je m'en suis occupé. Merci.
Vous écoutez RTL.